cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard, le 14 octobre 1987.
C'est analogique, je veux dire que nous sommes intelligents de diverses manières. J'ai toujours rapporté ici cette petite phrase qui m'avait beaucoup frappé quand j'étais étudiant. On avait la goutte de lait qui était faite par le père Mandonnet, le grand historien du Moyen Âge. Et le père Mandonnet devait nous faire un petit cours sur la méthodologie historique. Petit livre qu'il avait fait lui-même. On en a vu, je crois, pendant toute l'année. Trois lignes. Ça avait quand même 20 pages. La vu trois lits. Parce qu'au bout de 3 minutes, le père Mondané a enlevé ses lunettes. Et puis il disait « Mes petits frères !» Et puis il racontait des histoires. C'était merveilleux. Un jour, il nous a dit ceci. Je crois que c'est la seule chose que j'ai retenue de son cours. « Mes petits frères, dites-vous bien que vous êtes tous intelligents. » Oui, ça, ça se retient. « Dites-vous bien que vous êtes tous intelligents. » Mais vous aurez des professeurs qui auront une intelligence peut-être différente de la vôtre. Et vous aurez des professeurs qui auront peut-être la même forme d'intelligence que vous. Si vous avez un professeur qui a la même forme d'intelligence que vous, ce professeur dira « J'ai un génie dans ma classe. » Parce qu'il rencontrera la même forme d'intelligence. Chez un autre. Si vous avez un professeur qui a une intelligence tout à fait différente de la vôtre, il dira « J'ai un imbécile dans ma classe. Il ne comprend rien à ce que je dis. » Voyez, c'est ça. L'intelligence est analogique, c'est-à-dire qu'elle a une diversité intrinsèque. Elle aborde le réel de diverses manières. L'artiste, l'artisan et le grand artiste n'abordent pas le réel de la même manière. Regardez les tableaux de Van Gogh quand il monte le soulier et regardez un cordonnier. Je ne crois pas qu'il le regarde tout à fait de la même façon. Un artiste qui n'est qu'artiste, il est sensibilisé par la qualité, le sensible propre, la lumière. Le reste, il laisse tomber. L'artisan qui répare les chaussures, il regarde tout de suite là où il y a un trou. C'est pas la lumière. Comme ça, de fait, le docteur, le médecin, regarde tout de suite. Ah, il est malade. Il y a telle maladie. Le psychologue, oh là là. Là, il est tout à fait détraqué. Et ainsi de suite. Chacun, on a cette capacité de saisir. Tel ou tel aspect, on ne connaît pas la réalité immédiatement d'une manière exhaustive. On voit un aspect et on est intelligent pour cet aspect et quelquefois on est très bête pour le reste. Il y a des artistes au point de vue pictural, au point de vue sculpture qui sont au point de vue pratique, d'une nullité absolue. Et pourtant, ils sont des artistes, et donc ils ont une connaissance du réel, mais très particulière, pas du tout la même que l'artisan. Notre intelligence se développe de diverses manières, et pour chacun d'entre nous, nous avons une intelligence qui est orientée vers telle tel sens. Et quand il s'agit d'entrer dans un autre type de connaissance, c'est beaucoup plus difficile pour celui qui a déjà des plis très nets que pour celui qui n'a rien. Celui qui a fait 6 ans de Sorbonne, il est complètement défiguré. Complètement. Et quand il s'agit de retrouver une philosophie réaliste, il a une peine énorme. Une peine énorme. Celui qui n'a jamais fréquenté la Sorbonne et qui a uniquement été artiste, il comprend beaucoup plus facilement. Celui qui est matheux, il a des plis. Il a beaucoup de peine de redécouvrir la connaissance philosophique. Yes. c'est fait. Ils sont commerçants par nature. Est-ce que c'est du cuir? Est-ce que c'est au contraire de la saleté? Est-ce que c'est... Et ainsi de suite, vous voyez. Oh, quoi, c'est fait. Alors, ils sont plongés dans la cause matérielle. Et à côté d'eux, il y a quelqu'un qui est un artiste. La matière, vous savez, pour l'artiste, hein. Pff, là, 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 là. Ce qu'il regarde, c'est la forme. C'est la détermination. C'est la lumière pour le peintre. La matière, ça n'a pas une importance énorme. Le tout, c'est que la forme existe. Et puis il y en a qui regardent uniquement la finalité. J'avais un ami qui était à l'ONU, qui était un psychanalyste, mais assez philosophe. Et ce qui l'intéressait, c'était de voir la manière dont chaque pays interrogeait. Alors il mettait toujours en opposition l'Amérique et l'Inde. C'était très curieux. Les questions de l'Amérique, comment? Les questions de l'Inde, en vue de quoi? Pourquoi? Il y en avait un dialogue extraordinaire entre l'Inde qui se posait toujours la finalité, pourquoi? Et puis les Américains, l'efficacité. Et c'est vrai, ça suffit. Vous voyez, c'est arriver à discerner les plis de notre intelligence, la manière dont nous apportons le réel. Notre intelligence est analogique parce qu'elle a en elle cette richesse d'aborder le réel et de connaître le réel de diverses manières. Pas d'une seule. Tandis que la connaissance dialectique est une connaissance qui se fait par la division. Et donc c'est une connaissance uniforme et quantitative. C'est extraordinaire de voir ça. Je crois que il faut tout le temps revenir là-dessus. Aujourd'hui, je dis en riant, vous savez, il y a deux manières de découper un poulet avec un sécateur ou d'une façon beaucoup plus intelligente en respectant que le poulet, c'est un tout organique dont il faut arracher les diverses parties d'une façon intelligente. Quand vous coupez au sécateur une cuisse, Hegel, c'est un monument. C'est un génie. La dialectique. Mais c'est un génie. On a fait la comparaison, et on a raison, de dire que Hegel est pour notre temps ce que Aristote a été si longtemps pour notre pensée. de soleil. Tout le monde aime d'entendre un petit rossignol. À moins d'être vraiment un abruti. Ça peut arriver. Est-ce qu'il y a des abrutis, ça, c'est... Les abrutis, le philosophe les salue respectueusement, mais ne s'arrête pas, vous comprenez? Parce que c'est pas la peine, c'est... connaissance de l'être et la connaissance du bien. Là, il y a quelque chose de très intéressant et important à saisir. La dégradation de la distinction entre la connaissance pratique et la connaissance spéculative. Et comment cette dégradation s'est-elle faite? Parce que tout simplement, avec Suarez, on a voulu puiser directement une philosophie à partir d'une théologie. La foi est éminemment spéculative et pratique. Dans l'ordre surnaturel, la distinction pratique et spéculative est dépassée. Alors, on comprend très bien, en face d'une théologie comme celle de saint Thomas, qui se fait à partir de la foi, la distinction spéculative et pratique n'existe pas. La prima pars est spéculative, la seconda pars est pratique, comme on dira au XVIIe siècle. On dira le dogme et la morale. Alors que pour saint Thomas, il n'y a qu'une seule théologie, la théologie scientifique qu'il nous donne. Il n'y a qu'une seule théologie, la théologie mystique et la théologie biblique. Alors on a réintroduit à l'intérieur de l'unité de la théologie une distinction qui est propre à la philosophie. Et on a voulu redécouvrir à l'intérieur de la pensée théologique qui est une, l'aspect spéculatif et l'aspect pratique. Et alors on l'a fait très mal. On l'a fait de façon purement matérielle. Et on n'a pas su reposer le problème de la connaissance pratique, de la philosophie pratique et de la connaissance et de la philosophie spéculative. Je crois que là, il y a quelque chose de très important à saisir. Il y a un clivage. Bon. La connaissance, la philosophie pratique ne suffit pas pour connaître l'homme. Il faut découvrir une autre dimension de la philosophie. Et cette autre dimension, c'est ce qu'on appelle la philosophie spéculative. Pourquoi? Parce que, précisément, le travailleur, l'artiste qui travaille la matière connaît cette matière, mais il la connaît en vue de son travail. Il ne la connaît pas pour elle-même. Pour bien connaître ce que c'est que la matière, il faut donc la regarder en elle-même et pour elle-même. Autrement, je ne la connais pas parfaitement. Je la connais en vue d'eux. Et donc, je ne m'arrête pas à cette connaissance de la matière. Il y a donc tout un développement de la philosophie spéculative qui doit se faire dans la connaissance des réalités capables d'être transformées. Je vais donc essayer de comprendre ce que c'est que cette expérience très fondamentale, l'expérience de ce qui est mu, l'expérience du devenir. Voyez, regardez bien toujours, nous avons vu l'expérience du travail, l'expérience de l'amour d'amitié, l'expérience de la coopération. Voilà, les trois grandes expériences qui sont à l'origine des trois parties de la philosophie pratique. Philosophie de l'activité artistique. Philosophie éthique. Philosophie politique. De cette expérience du travail, il va y avoir une expérience plus radicale, l'expérience de ce qui est mu. Thank you. pierre. Et je crois qu'aujourd'hui, vous êtes très attentif à ça. Il faut bien voir comment, au plan philosophique, va naître la philosophie de la nature. C'est à partir de l'expérience que j'ai de la matière, ce qui est capable d'être transformé. Et je regarde cela en elle-même, et je découvre alors ce que c'est que la nature. Voyez de voir comment